franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'attention que le monde porte présentement au Japon justifie le propos d'un très vieux poète de l'archipel. C'était au Xe siècle, il disait « Entre les pays, les langues diffèrent, mais le cœur des hommes est un et le spectacle de la lune est le même ». Cependant, dans l'imaginaire japonais, il y a beaucoup de singularités, ne serait-ce que la présence, est-ce dans le ciel, en tout cas, elle est très forte, d'un empereur. L'empereur du Japon, c'est notre thème aujourd'hui avec François Massé. Bonjour François Massé.
Bonsoir.
Professeur à Langzhou. Je vous parle de la lune, alors vous me parlez du soir. Eh bien nous, nous allons parler de l'aube des temps anciens quand apparaît la figure de l'empereur. Mais l'empereur continue d'exister. Celui qui règne actuellement est le 125e selon la mythologie impériale. Il s'est exprimé, fait exceptionnel, le 15 mars, quand commençait à monter le péril atomique. C'est impensable, François Massé, d'interrompre l'empereur. C'est impensable de parler au-dessus de sa voix. C'est impensable de le nommer comme on le fait, nous,
non,
en Europe, Akihito. Son petit nom.
Oui, il y a enfin, plusieurs problèmes. Le problème, maintenant d'en parler, ça ne pose plus de problème. L'annonce dans les journaux de l'intervention de l'empereur à la radio et à la télévision est passée à la 21e page dans le journal Asahi. Donc ce n'était plus comme il y a quelque temps. Quant à l'appeler par son nom personnel, c'est vrai que ce n'est pas l'usage. On parle de l'empereur, point. Si on est nostalgique, on parle de Sa Majesté l'empereur. Mais si on le nomme par son nom personnel, c'est qu'on prend une position idéologique, politique, contre le système impérial. Et ça, c'est encore assez minoritaire au Japon.
Alors si c'est seulement en 21e page des quotidiens qu'est passée son intervention, c'est que maintenant il accompagne le temps, alors que sa fonction originelle était de contrôler et de maîtriser le temps. Puis il a expliqué au fond aux Japonais qu'il partageait une communauté de destin, alors que son destin à lui était d'être un être à part. Ici, Archives France 2, octobre 94.
Une immense masse verte au centre de Tokyo, protégée des rumeurs de la ville par des douves et des hauts murs. Le temps semble s'y être arrêté. C'est là que vit la plus ancienne dynastie régnant sur la planète. Au Japon, les empereurs sont, dit-on, les seigneurs du ciel, plus que des chefs d'État ou des monarques. Dans le Japon d'aujourd'hui, l'empereur demeure un être à part. Les fonctionnaires tout puissants de l'agence impériale ont, dit-on, érigé un rideau de chrysanthèmes autour des souverains, leur donnant l'image d'une famille idéale, loin des frasques des cours européennes. Installé ainsi à l'écart, le couple impérial règne souvent dans l'indifférence, sans que personne n'imagine pourtant que cela puisse s'arrêter un jour.
Le palais, vous n'y êtes jamais entré ?
Dans l'instant du palais, si.
Oui.
Le palais, c'est l'ancien château des shoguns à Edo, devenu Tokyo. Et donc, c'est un espace très, très grand. Et dans cet espace, il y a des jardins et des palais. Donc, le palais des cérémonies officielles, ouvertes aux diplomates ou à quelques rares invités, ça, non, je ne suis pas rentré.
Mais dans l'enceinte. Une grande pièce, peut-être vide de meubles, avec des baies vitrées qui donnent sur l'eau, les murailles. Le rideau de chrysanthème.
Le rideau de chrysanthème, ça, c'est une invention de journaliste.
Oui,
occidentaux même, je pense. Je ne vois pas trop l'équivalent en japonais. C'est vrai que la vie de l'empereur actuel, depuis Meiji déjà, est une vie un peu coupée du monde.
Alors Meiji, 1868, on en parlera tout à l'heure, les shoguns du 11e, 12e siècle jusqu'à 1867, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais remontons d'abord, première partie, aux temps anciens qui vous sont les plus familiers, François Massé. Le fils du ciel est un fils de l'empire chinois, c'est-à-dire que le modèle de l'empereur japonais, c'est un modèle chinois.
Le modèle est chinois, bien sûr. La titulature aussi. Le terme qu'on utilise actuellement pour l'empereur du Japon, donc c'est Tenno. qui vient du chinois, qui désigne l'étoile polaire, qui règne sur le ciel. Et donc l'empereur est sur Terre, l'image de l'étoile polaire qui règne sur le monde.
Dans le palais, il y avait l'horloge à eau qui symbolisait la maîtrise du temps, non, par l'empereur.
Oui.
Ce qui vient de Chine aussi.
L'horloge à eau vient de Chine, elle est arrivée au Japon au 7e siècle. Donc avant que le terme même de Tenno soit utilisé au Japon. Le terme de Tenno n'apparaît très vraisemblablement qu'à la fin du 7e siècle. Au moment où le Japon bascule dans le système chinois d'un État régi par les codes.
Alors c'est le rite qui dépend de l'empereur, c'est le code qui dépend de l'empereur. L'empereur a aussi des régalias, c'est-à-dire des symboles.
Oui.
Chez nous, c'est le trône en majesté, la couronne.
Oui, il y a... trône, il n'y en a pas. La couronne, ça a varié. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où les empereurs coiffaient la même... on peut dire la même coiffe que les empereurs chinois, c'est-à-dire une sorte de coiffe carrée avec un rideau de perles devant. Mais il y a très peu de représentations de l'empereur en majesté au Japon. La seule que je connaisse avec cette coiffe, c'est d'un empereur du XIVe siècle. Bon, on y reviendra peut-être.
Du modèle chinois vient aussi l'organisation de la cour avec des aristocrates ou des fonctionnaires qui sont organisés en rang,
oui,
en série.
En rang.
Selon une hiérarchie.
Le rang de cour pour arriver jusqu'au premier rang supérieur, qui est très très rarement attribué. Mais à la différence de la Chine, ce qui n'a jamais marché au Japon, c'est le système des examens. En théorie, en Chine, pour grimper dans la hiérarchie administrative, il fallait être reçu aux examens mandarinaux, avec plusieurs degrés. Dans le cas du Japon, il y a eu des examens, mais ils n'étaient ouverts et n'ouvraient qu'à des postes subalternes. C'est-à-dire qu'on avait besoin de bons spécialistes de la langue chinoise pour rédiger les textes, mais les hautes fonctions, les fonctions politiques, étaient attribuées de façon héréditaire à de grandes familles. Et ça va devenir la famille Fujiwara, voilà, enfin, une famille qui va monopoliser quasiment tout le pouvoir pendant le Japon antique.
Alors, maître du temps, comptable aussi des catastrophes, l'empereur accompagne l'harmonie entre le monde et le temps. C'est lui, par exemple, qui, quand le printemps pointe, on dit que le printemps au Japon, c'est le plus beau du monde, peut-être pas cette année, c'est lui qui convie à chanter les fleurs. Gekaku,
ouais.
Musique de cour.
Musique de cour qui existe au Japon, là, probablement à partir du 7e siècle, mais la forme que l'on connaît doit dater du 8e siècle. C'est de la musique chinoise, hein, encore une fois, de l'époque des Tang, qui a disparu en grande partie en Chine, qui s'est maintenue vaille que vaille, avec des ruptures, mais des reconstitutions au Japon.
Merci de nous expliquer ce que c'est que le gagaku, parce que dans le disque, on avait en accompagnement qu'une fiche en japonais. Mais d'ailleurs, quand le japonais se singularise-t-il ?
En tant que langue ?
Oui.
Très tôt, mais de façon un peu compliquée, puisque les japonais n'avaient pas d'écriture. Et donc, ils ont pris l'écriture chinoise, mais l'écriture chinoise étant faite pour le chinois, il a fallu faire un bricolage pour réussir à transcrire le japonais avec le chinois. Donc, au début, ça a été vraiment du bricolage. Et puis, au 9e siècle, on a inventé le syllabaire. Et là, on a pu transcrire le japonais sans problème.
Alors, sur notre site, on ne trouvera pas cette fiche en japonais. On trouvera une vidéo avec... Les images de la troupe issue de l'agence impériale d'aujourd'hui qui joue avec beaucoup de cérémonie, selon une chorégraphie quasi immobile, ce morceau de gagaku. Tout était extrêmement ritualisé. On disait que la cour était un lieu d'esthétisation. On est au 8e, 9e, 10e, 11e siècle là. Que l'aménagement des manches des dames, quand elles sortaient des portières des voitures, était lui-même codifié.
Oui. Et surtout les couleurs. hommes et femmes, mais surtout hommes, étaient tenus à une étiquette de couleur très très stricte en fonction de leur rang, en fonction de leur fonction, en fonction de la saison. Il était de mauvais goût de porter une couleur qui ne serait pas en harmonie avec la saison.
Alors il faut imaginer la cour de ces temps anciens avec les femmes séparées des hommes. Les romans de cour, on en a édité dans la Pléiade, imaginent quand même des aventures largement virtuelles entre les deux sexes qui étaient séparés. Et puis du côté des hommes, des gens d'âge, de savoir, peut-être un peu ennuyeux, vêtus de soie, pendant qu'un peu partout dans le pays, les grands temples créent des féodalités, les grands domaines créent des féodalités. Et alors, évidemment, les esthètes face aux guerriers, au bout d'un moment, n'ont pas pesé lourd.
Oui, ça a pris du temps, très très curieusement. Enfin, la cour a continué à vivre dans son monde un peu séparé des réalités du monde, jusqu'à donc au XIIe siècle. Mais encore, même après l'avènement du premier shogunat, à l'époque de Kamakura, la cour est restée maîtresse du civil, finalement. Les premiers shoguns ne se sont occupés que des guerriers.
Alors qu'est-ce que c'est un shogun? C'est quelqu'un qui remet de l'ordre dans la classe guerrière, turbulente, sur délégation de l'empereur.
Oui, le titre complet, c'est Seiyi Tai Shogun, le généralissime chargé de pacifier les barbares. C'est un titre qui existe depuis longtemps, irrité de la Chine, lui encore. Il a été pris donc à la fin du XIIe siècle par un Minamoto, donc un clan issu de la famille impériale. Et il a institué vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup à notre féodalité. Une féodalité donc sur les guerriers. Donc il y a eu pendant un siècle une sorte de double gouvernement entre les guerriers dépendant de Shogun, et le reste de la population dépendant de l'empereur. Jusqu'au moment où l'empereur a essayé de récupérer le pouvoir, et il a échoué. Et là, les guerriers ont tout pris.
Alors, il y a eu beaucoup de tentatives de la part de l'empereur. On va s'arrêter à la dernière. Nous sommes au début du XVIIe siècle. Elle est racontée à sa façon par un film de Kinji Fugasaku. Les shoguns, maintenant, sont organisés autour d'une dynastie naissante, les Tokugawa, et l'empereur essaye, une dernière fois, de faire contrepoids.
« Bakkon yori, Shinra ichido kokoro o itsu ni shite »
La récente querelle avec le fils du shogun Tokugawa nous donne l'opportunité de restaurer notre souveraineté. Cela fait longtemps que les guerriers usurpent notre autorité. Nous avons patiemment enduré le mépris depuis trop longtemps. Je crois qu'il est temps pour nous de les vaincre. Nous devrions pousser les princes de l'Ouest qui se sont plaints pour qu'ils se soulèvent sous la bannière impériale. Si nous menons la révolte et combattons Shogun, la confusion sera extrême. La paix s'évanouira, le peuple va ressentir des souffrances sans précédent. Pourtant, cette restauration est un objectif plus important. Je demande ceci, votre majesté. Laissez-moi envoyer votre message aux princes de l'Ouest et ils combattront avec nous.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'historien du Japon, éminent japonisant qu'est François Massé, sourit dans sa barbe en entendant cette évocation à la façon d'un cinéaste de la tentative de restauration de l'Empire. Nous sommes là au tout début du XVIIe siècle, vers 1615, ça va échouer. Et les shoguns vont l'emporter encore une fois.
Oh oui, en réalité, là, je ne comprends pas d'où ils ont sorti ça. Enfin, il n'y a pas eu véritablement de restauration, de tentative de la cour. Elle n'avait aucun pouvoir. Enfin, elle avait perdu son pouvoir depuis longtemps. En réalité, la seule grande, véritable volonté de restauration, c'est au milieu du XIVe siècle, avec l'empereur Go-Daigo. Lui, il a restauré pendant quelque temps le pouvoir.
Alors, comment se fait-il d'ailleurs que la dynastie échouant réussissent à se maintenir. Elle a sa petite cour. Alors la cour l'empereur, elle est à Kyoto.
Elle est à Kyoto.
Pendant que le shogun est à Edo, ce qui sera plus tard Tokyo. Il n'y a pas d'argent.
Ah non, non, non.
Pour l'empereur, il vend des titres. Il survit.
Il y a eu deux périodes. Enfin, juste avant l'époque d'Edo, donc au moment des provinces en guerre, là c'est on peut dire, le fond. La maison impériale a touché le fond. Il y a un empereur, donc vers 1500, qui a attendu 20 ans avant de pouvoir célébrer son rite d'accession. Il n'avait pas d'argent. Ça aurait pu disparaître. On raconte qu'un empereur aurait vendu ses calligraphies pour survivre. Il n'y a pas de certitude, mais ça montre à quel point la maison impériale était faible. Une fois les Tokugawa arrivés au pouvoir, donc ils sont arrivés en plusieurs étapes, mais donc 1600, c'est la première bataille où ils écrasent leurs ennemis. 1603, ils reçoivent le titre de shogun. Et 1615, c'est la fin des derniers descendants du précédent unificateur du Japon. Il y a, cette fois-ci, il n'y a plus de doute, il n'y a que le shogun. Et face à cette puissance du shogun, l'empereur n'a que sa tradition, on pourrait dire. Et les shoguns vont organiser la cour. Il va y avoir un règlement édicté par le shogun sur la cour et les nobles, disant que l'empereur doit s'adonner à l'étude des lettres, etc., et interdisant tout contact direct entre la population et l'empereur. Le shogunat va donner quelques revenus à l'empereur, de quoi maintenir son rang, mais pas plus. Pour toutes les cérémonies exceptionnelles, il fallait que l'empereur demande l'autorisation au shogun, et c'est Edo, donc, qui permettait à l'empereur de tenir, de célébrer, par exemple, les rites d'avènement.
Kyoto dépendait d'Edo. Mais quand on a de la patience, on attend les opportunités du temps. Et puis, au bout de quelques décennies, le shogunat s'épuise. Il y a beaucoup d'habitants dans les villes au Japon qui ne sont pas toujours contents des shoguns. Beaucoup d'habitants dans les campagnes qui multiplient les révoltes paysannes. Les shoguns, ils ont choisi le système de l'isolationnisme. Et tardivement, nous sommes maintenant au milieu du 19e siècle, les puissances étrangères qui voudraient que s'ouvre le Japon vont découvrir le rôle de levier que peut avoir cet empereur survivant. Alors là, on est sous le règne de Napoléon III en France.
Oui, à peu près. Hein, oui.
Ça va être l'ère Meiji. Alors, encore un film François Massé. C'est l'autre côté, séquence du spectateur. Le dernier samouraï, c'est un film plus récent, 2002-2003, de Zwick, un agent américain qui introduit les étrangers auprès de l'empereur qui va reprendre d'une manière phénoménale le pouvoir.
Pendant 2000 ans, aucun empereur n'a été vu par un roturier. Nous devons apprécier le geste exceptionnel, l'honneur qui nous est fait. Tout est très ritualisé, bien sûr. On peut le regarder, mais pas lui parler, à moins qu'il ne s'adresse à vous. On doit s'incliner devant lui. Il s'incline, on s'incline plus bas.
Le divin empereur Meiji vous souhaite la bienvenue.
J'ai rêvé d'un Japon unifié, d'un grand pays fort, indépendant et moderne. Et maintenant, nous avons des chemins de fer, des canons, des habits occidentaux. Mais nous ne pouvons oublier d'où nous venons, ni qui nous sommes.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'action du génie puissant de cet empereur Meiji, gourmand, actif. Ce sont les tensions internes du Japon. C'est les puissances étrangères qui frappent à la porte.
Il y a de tout. Il y a d'abord eu une crise du Bakufu, une crise donc du gouvernement du shogun, qui n'avait pas réussi à mater les fiefs extérieurs, donc les grands fiefs du sud et de l'ouest du Japon. Ces fiefs-là avaient soif de modernité, d'ouverture, au moins à la technique étrangère. D'autre part, il y a eu une fermentation idéologique très très forte autour de ce qu'on pourrait appeler un nationalisme japonais. Les Occidentaux étant considérés comme des barbares. Et le un des grands déclencheurs, ça a été la guerre de l'opium. Les Japonais ont été horrifiés de voir que des gens sans aucune culture, comme les soldats anglais, ont pu renverser le droit, c'est-à-dire le côté chinois. Et ils ont tiré les conséquences. Il faut réagir. Mais là, il y a eu une sorte de croisement et de renversement complet, puisque la restauration s'est faite au nom d'un retour et finalement de volonté de fermeture du Japon. Et une fois arrivé au pouvoir, c'est le contraire qui va se passer. Donc le Bakufu avait essayé d'ouvrir, il a été renversé par les gens qui voulaient fermer, et une fois que ceux qui ont voulu fermer sont arrivés au pouvoir, ils ont ouvert.
Alors l'empereur va mettre au point un système constitutionnel, mais constitutionnel un peu autoritaire, 20 ans après le début de l'ère Meiji. Nous sommes avec cette constitution en 1889. Et puis, il a dit, on a été retardataire. Il a ajouté, on reste insulaire. Et l'insularité va de nouveau développer du nationalisme. Bon, nous sommes maintenant deux générations, 50 ou 60 ans après l'ère Meiji, sous l'époque d'Hirohito. On ne va pas ici, dans une émission consacrée à l'empereur en général, essayer d'établir les responsabilités d'Hirohito dans le déclenchement de l'alliance avec l'axe qu'il a choisi. Enfin, on peut dire quand même que l'image de l'empereur, c'est la clé de voûte du système nationaliste militaire des années 1930 au Japon.
Bien sûr. Et ça, c'est dans la droite ligne de Meiji. À l'époque, Meiji, et la Constitution le montre, enfin, la Constitution qui est inspirée de la Prusse, hein. L'empereur est au sommet. Et tout ce qui a été fait à partir de Meiji, notamment le culte officiel, enfin le Shinto qui est devenu, non pas une religion, mais l'expression de la japonité, était centré sur la personne impériale. Chaque école devait avoir le portrait de la famille, du couple impérial. On devait réciter, donc ça jusqu'en 45, hein. On devait réciter à toutes les occasions solennelles le rescrit impérial sur l'éducation qui commence par nos ancêtres divins. Et donc la lignée impériale était magnifiée.
1945, la situation est évidemment extrêmement compliquée pour Hirohito, appelons-le par son prénom, qui voit arriver le protecteur MacArthur, le protecteur américain, qui lui donne quand même un sauf-conduit, qui lui permet de continuer de régner. Actualité cinématographique, décembre 1945, c'est-à-dire deux mois après la défaite japonaise.
Devant le paysage traditionnel du Fusiyama, l'empereur du Japon, Hirohito, accomplit son dernier devoir de chef vaincu. Il se rend au tombeau de ses ancêtres, et là, en présence des prêtres, il annonce aux ancêtres la fin de la guerre et la défaite du Japon. À la fois empereur et dieu pour son peuple, Hirohito l'a conduit sur la route de la guerre. Hirohito, le responsable, recueilli devant le tombeau de ses pères, est-il venu leur demander pardon ?
Il vient régulièrement voir ses
aïeux. C'est un devoir d'empereur. Il faut avertir les ancêtres et la déesse de Dicée de tous les événements importants. Donc là, ça va rien d'exceptionnel. Bah, sauf que ce qu'il annonçait est exceptionnel. Mais la démarche elle-même n'a rien d'exceptionnel.
En revanche, de voir aller en voiture en s'arrêtant au feu rouge jusqu'à la résidence de MacArthur, voir MacArthur allumer sa pipe et vous offrir une cigarette alors qu'on n'a jamais fumé de sa vie. Et puis de voir répondre à la main tendue. Votre Majesté, ça c'était quand même...
Là c'était exceptionnel. Et là, la fameuse photo où on voit MacArthur sans cravate, hein, et Hirohito tout petit à côté, c'est vrai, elle est choquante. Ouais. Enfin, elle a dû être choquante pour les Japonais.
Pour les chambellans, pour la cour et pour les Japonais. S'il sauve son trône, il ne garde plus de pouvoir, l'empereur.
Non. Ça, la nouvelle constitution est très claire là-dessus. L'empereur devient symbole du Japon. Point. C'est-à-dire qu'il a, je pense, encore moins de pouvoir que la reine d'Angleterre. Ils ne peuvent strictement rien faire sans l'aval du gouvernement.
À l'ombre de Hirohito grandit son fils. Auriez-vous aimé être un garçon ordinaire, lui a-t-on demandé un jour à ce fils. Je ne sais pas, je n'ai jamais été un garçon ordinaire. Archives de la chaîne coloniale 1950.
Les séquelles laissées par la guerre prennent à l'occasion une assez cocasse apparence. Le prince Akihito, fils aîné du Mikado, va avoir 16 ans ce mois-ci. À cette occasion, il portera son premier pantalon, mais il devra se contenter d'un costume d'occasion. L'empereur Hirohito, son père, a estimé en effet qu'il serait peu raisonnable par les temps actuels de faire la dépense d'un complet neuf. En vertu de quoi, le jeune prince portera un costume de tweed brun que son père a sorti de sa propre garde-robe et a fait retailler pour ce nouvel usage.
C'était les échos du monde.
Bon, évidemment, la cour n'est pas dans l'état de pauvreté qu'elle a pu connaître au XVe siècle. Néanmoins, il y a quelque chose de vrai dans ce qui est dit là. Akihito, bah, utiliser son prénom, ne peut que reprendre les habits de son père.
Oui, au point de vue du symbole, c'est clair. Ouais. Il reprend les mêmes rites, les mêmes responsabilités. Non, moins de responsabilités en réalité. Puisque depuis la nouvelle constitution de 47, l'empereur n'a plus de responsabilités.
Alors cet homme qui s'est exprimé, là le 15 mars, il a maintenant 77 ans. Il avait 16 ans au moment de cette archive. Au moment de son mariage, 25 ans, 1959, on le présentait comme un jeune homme moderne qui avait épousé une jeune femme roturière, soucieuse de l'évolution des classes pauvres. Bon, et maintenant il a vieilli avec les Japonais, oui. Il les a accompagnés et n'a rien pu changer.
Ah bien sûr que non, il ne peut pas changer. Enfin, il ne peut jouer que son rôle. Et la spontanéité, ce n'est vraiment pas la qualité que l'on met en avant dans la maison impériale. Le mariage lui-même, roturière, ce n'était pas une fille de boutiquier. Hein. C'était la fille d'un très très gros industriel. Donc le soin des classes pauvres, ça fait partie du travail des First Lady dans tous les pays du monde. Et l'impératrice de Meiji l'avait déjà fait, bien avant.
Vieux tous les deux, contraints, peut-être un peu déprimés, ils accompagnent le vieillissement du pays.
Oui, c'est vrai. L'image qui est donnée, c'est un vieux couple. Oui. Et la proportion de centenaires au Japon est parmi les plus fortes du monde.
Vous dites que quand il intervient, c'est à la 21e page d'un quotidien, cet empereur en apesanteur, qui le reste quand même pour l'opinion, il est flanqué d'un Premier ministre sur un siège éjectable, qui dit lui-même ne plus avoir le contrôle de la situation, au moment où évolue de manière de plus en plus énigmatique la catastrophe nucléaire, l'État est dépassé.
Oui, mais l'État, ce n'est pas l'empereur. Je pense que la faillite du Premier ministre et de l'administration japonaise, finalement, n'a rien à voir avec la maison impériale, en un sens. Ils vivent dans un autre temps.
Eh bien, vous nous l'avez partagé un instant, cet autre temps. François Massé, on retrouve sur notre site une vidéo de Gagakul, la mention de vos différents ouvrages. Et merci à l'équipe de la Marche de l'Histoire, Claudine Lapersonne et Basile Beaucaire l'accompagnaient. Aujourd'hui, Jacques Sigal, Camille Jalaguier, Franck Olivard et Frédéric Martin.